Les rendez-vous de l'histoire, une émission qui porte un regard éclairé sur des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire de l'humanité.
Les rendez-vous de l'histoire. Historien et philosophe marocain de renom, Abdeslam Chedadi est l'un des grands de pointure d'Ibn Khaldoun. Professeur Chedadi a donné des cours dans les universités les plus prestigieuses du monde. De l'université Mohammed V, en passant par Harvard, Yale et Princeton, jusqu'à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant de sujets aussi divers que la civilisation arabe, les questions de la culture et de l'éducation dans le monde arabe moderne et au Maroc. Monsieur Chedadi nous invite à travers une série d'épisodes à découvrir la vie et l'œuvre d'Ibn Khaldoun, armé d'une solide connaissance du personnage en question, et nous guide dans les dédales de l'histoire et nous éclaire sur notre patrimoine.
Bonjour, chers auditeurs. Eh bien, donc aujourd'hui, nous allons reprendre notre séminaire, ou si l'on peut l'appeler comme ça, sur Ibn Khaldoun. Et donc, nous en sommes aujourd'hui à la cinquième séance. Dans la séance précédente, nous avons parlé de l'œuvre d'Ibn Khaldoun, en insistant sur le fait que, en fait, Ibn Khaldoun se disait lui-même l'auteur d'une œuvre unique, le Livre des Exemples. Et il a très peu parlé de ses autres œuvres, en particulier ce qu'on peut appeler les œuvres de jeunesse, et qui sont assez importants, en particulier deux d'entre eux, et dont je vous avais parlé déjà d'ailleurs. Et puis, nous avons essayé de comprendre la vie d'Ibn Khaldoun avait eu un retentissement sur la composition et l'inspiration de ses œuvres. Bon, aujourd'hui, nous allons avoir une séance très particulière. C'est une séance qui est consacrée aux manuscrits et aux éditions et traductions de l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Alors cet aspect est un aspect peut-être qui n'est pas, disons, intéressant pour tout le monde. Moi, je crois quand même qu'il est intéressant pour chacun. Mais il est surtout intéressant pour les gens qui cherchent à connaître un peu mieux l'œuvre d'Ibn Khaldoun et qui essaient de comprendre quelle est son importance aujourd'hui, à la fois dans notre culture arabe et musulmane et dans notre culture universelle d'une manière générale. Alors, pourquoi les manuscrits et les éditions et les traductions sont importantes? D'abord, comme vous le savez, les ouvrages que nous étudions aujourd'hui, qui appartiennent à ce qu'on appelle Atsurats, donc le patrimoine culturel, ce sont des ouvrages qui ont été écrits il y a plus de 4 ou 5 siècles. En tout cas, certains ont été écrits même au 19e, mais ils n'ont pas été imprimés. Et comme vous savez, l'imprimerie n'a commencé à avoir une certaine expansion dans le monde qu'à partir de, disons, inventé au milieu du 15e, elle a commencé à se répandre dans le monde à partir de la fin du 15e, début du 16e. Et en réalité, il n'a commencé à être véritablement utilisé dans le monde arabe et musulman que très tard, des fois à la fin du 18e ou au début du 19e, donc assez tard par rapport aux pays européens. Ce qui fait donc que nous avons les ouvrages que nous avons sont des ouvrages manuscrits. Et qui dit manuscrit dit difficulté de lecture, qui dit faute de copiste, qui dit également un nombre considérable de variantes. Et pour pouvoir travailler sur un texte, il faut avoir un texte authentique, premièrement, et deuxièmement, corrigé pour qu'il n'y ait pas, où il n'y a pas trop d'erreurs, et lisible. Et en plus, maintenant, l'érudition occidentale en particulier a apporté de nouveaux éléments à la présentation d'un texte ancien, en particulier en apportant ce qu'on appelle un appareil critique. Alors cet appareil critique comprend tout ce qui concerne l'origine des manuscrits, comment ils sont répartis dans le monde, comment ils ont été colligés, comment ils ont été comparés, et puis comment on est arrivé à obtenir un manuscrit ou en tout cas un texte qui représente véritablement l'œuvre de l'auteur. Alors tout ce travail-là, c'est un travail capital. Sinon, en réalité, on peut travailler sur des textes qui ne sont pas tout à fait authentiques ou qui contiennent trop de fautes, ou qui contiennent des variantes qui ne sont pas les variantes de l'auteur, mais qui ont été apportées par les copistes. Tout cela fait que... il arrive parfois, d'ailleurs, dans les éditions arabes, qu'on se trompe simplement, on fait des interprétations fausses parce qu'on a un mauvais texte. C'est pour ça que l'étude du manuscrit et l'établissement des textes est vraiment capital. Alors, ceci dit, il faut voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait en ce qui concerne donc l'œuvre d'Ibn Khaldoun. Alors, commençons par les œuvres de jeunesse. Alors, dans ces œuvres de jeunesse, il y a d'abord, on doit mentionner d'abord, deux œuvres importantes. L'une qui s'appelle Lubab al-Muhassal et l'autre qui s'appelle Shifa al-Sa'il li Tahdhib al-Masa'il. Alors, Lubab al-Muhassal, c'est une œuvre importante, en fait, qui témoigne surtout pour le témoignage qu'elle nous apporte sur l'esprit et les compétences qui sont montrées très tôt dans l'œuvre d'Ibn Khaldoun, compétences en tant que théoricien, en tant que penseur. Donc, Tahdhib al-Muhassal, c'est une espèce de thèse, petite thèse, qui a été faite par Ibn Khaldoun, à un âge encore très peu avancé, il avait à peine 20 ans, et qui présentait une espèce de résumé d'un grand livre de théologie de Ibn Khatib al-Razi. Alors nous avons la chance que ce texte de Lubab al-Muhassal a été préservé. Il a été préservé en Espagne, à la bibliothèque de l'Escurial. Et une première édition en a été faite, accompagnée d'une traduction en espagnol, par Luciano Rubio, édition et traduction publiée à Tétouan en 1952. Une deuxième édition a été faite en 1995 à Beyrouth. Donc, ceci donc pour cette première œuvre de Lubab al-Muhassal. Une seconde œuvre est importante aussi pour, dans la production d'Ibn Khaldoun, la production quand il était encore jeune, c'est le Shifa al-Sa'il li Tahdhib al-Masa'il. Ça, c'est un ouvrage sur le soufisme. Ibn Khaldoun ne le mentionne pas dans son œuvre, dans l'autobiographie. Il n'en parle jamais. Mais nous avons des manuscrits et nous avons également des témoignages d'auteurs postérieurs, en particulier au Maroc, qui ont lu cet ouvrage et qui en ont parlé. Alors, c'est un ouvrage qui a été fait à l'occasion d'une controverse qui avait eu lieu en Andalousie, donc en Andalousie, à Grenade en particulier, et à Fès, entre les savants de l'époque. Et la question posée était, est-ce qu'on peut pratiquer le soufisme en se contentant de lire des livres sur le soufisme, ou bien faut-il un maître ? Faut-il nécessairement un maître ? Alors, cette controverse a duré plusieurs années, et Ibn Khaldoun, sans y être invité, a simplement écrit, parce que le sujet l'intéressait, une œuvre assez importante sur ce sujet. Et sur ce plan-là, Ibn Khaldoun, dans cette œuvre-là, a proposé un certain nombre de solutions intéressantes, et il a fait preuve d'une très grande érudition en matière de soufisme. Alors, cet ouvrage a été édité d'une manière, ce qu'on appelle, a eu une édition critique par un Marocain qui s'appelle Ibn Taouit à Tanger en 1959, sur la base d'un certain nombre de manuscrits qui se trouvaient en particulier au Maroc, en particulier deux manuscrits. Et on en a également une traduction en français qui est due au père René Pérez. René Pérez, c'est quelqu'un qui vivait au Maroc, à Rabat, pendant une bonne quinzaine d'années. Et je l'ai connu personnellement, d'ailleurs. J'ai eu de bonnes discussions avec lui. C'est un personnage extrêmement sympathique, mais je crois qu'il est déjà décédé. Et donc l'ouvrage, sa traduction a été publiée en 1991. Pour les autres ouvrages de jeunesse d'Ibn Khaldoun, qui sont mentionnés par Ibn Khatib, nous n'avons malheureusement aucun manuscrit. Alors, parmi ces ouvrages de jeunesse, il y a des résumés d'Ibn Rushd, il y a un livre sur la logique, il y a un livre d'arithmétique, il y a un livre, semble-t-il, qui était extrêmement intéressant et qui montrait une grande érudition de la part d'Ibn Khaldun. C'est un commentaire de la Bourda d'El Boussiri. Boussiri, c'est un auteur marocain. Et la Bourda, c'est un poème très long sur, en quelque sorte, l'éloge du prophète. Malheureusement, donc, nous n'avons pas de manuscrit sur ces œuvres-là. Et donc, on en est réduit à simplement aux commentaires qui ont été faits sur ces œuvres-là par Ibn Khatib et d'autres auteurs. Maintenant, nous passons à la grande œuvre d'Ibn Khaldun, donc l'œuvre principale, qui est le Livre des Exemples. Le Livre des Exemples est une œuvre qu'on peut dire est une des œuvres du patrimoine littéraire arabe qui a laissé le plus de manuscrits. En comptant les originaux et les copies de cet ouvrage, on en trouve plus d'une soixantaine, dispersés dans les grandes bibliothèques de Turquie, d'Égypte, du Maghreb, en particulier au Maroc, et Maroc et Tunisie, et d'Europe. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le Livre des Exemples n'a jamais bénéficié, dans son ensemble, donc, d'une édition critique. On a eu une édition qui a été faite au milieu du XIXe siècle en Égypte à Boulaq par Al-Hourini, Nasreddin Al-Hourini. Mais c'est une édition qui est malheureusement très fautive et qui ne comporte pas d'appareil critique. Récemment, nous avons eu un projet par un Tunisien qui s'appelle Ibrahim Chabou et qui promet donc de présenter l'ensemble du Livre des Exemples. Je veux dire que moi-même, j'avais essayé à un moment donné de réunir une équipe pour travailler sur cette édition. Malheureusement, ça n'a pas pu se réaliser. Et en ce qui me concerne, j'ai fait moi-même l'édition au moins de deux parties de l'œuvre. La Muqaddima, en trois volumes, que j'ai faite sur la base de pratiquement tous les manuscrits existants aujourd'hui dans le monde, aussi bien en Europe que dans le monde arabe. Et j'ai fait également, sous presse aujourd'hui, l'édition critique de l'histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb, également sur la base d'un très grand nombre de manuscrits, de meilleurs manuscrits qui existent aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va sortir bientôt avec justement un appareil critique très fourni et qui donne des informations assez larges sur toute une série de choses, notamment donc les noms propres et également les contextes historiques, etc. Et également, le plus important dans un appareil critique, ce sont les index. Et les index, c'est très important parce que ça permet de faire des repérages sans lire tout l'ouvrage quand on a besoin de repérer des choses particulières, des noms propres de villes, de personnages ou d'ouvrages ou des choses de ce genre. On commence d'abord par faire une recherche sur l'index qui permet d'avoir une première vue d'ensemble sur ce genre de choses. Voilà donc pour le Livre des Exemples dans son ensemble. Maintenant, pour ce qui est à proprement parler de la Muqaddima, il y a un ensemble très important consacré spécialement à la Muqaddima, un ensemble très important de manuscrits. Je pense qu'il doit y avoir une cinquantaine entre les originaux et les copies. Dans cet ensemble de manuscrits de la Muqaddima, on peut distinguer, et ça c'est quelque chose de très intéressant, je vais vous dire pourquoi, on peut distinguer trois séries. Alors, c'est important parce que ces séries correspondent en réalité à des versions différentes de l'œuvre selon l'époque dans laquelle on se place. C'est-à-dire, la première série de ces manuscrits correspond à la première version de la Muqaddima quand elle a été rédigée par Ibn Khaldun à Qal'at ibn Salama et quand elle a été par la suite un petit peu augmentée et corrigée quand il est retourné à Tunis. Donc ça, c'est la première version. Et puis, il y a une deuxième série de manuscrits, composée en fait tout simplement de deux manuscrits, qui se trouvent l'un à Leyde, en fait, qui se trouvent l'un à Leyde et l'autre au British Museum de l'Angleterre. Et ces deux manuscrits représentent ce qu'on pourrait appeler avec, représentent cette version primitive. C'est-à-dire, en fait, la version primitive, il y a un manuscrit qui est très important, qu'on ne trouve plus, qu'on a vu à un moment donné, qui a été repéré en particulier par l'Égyptien Al-Hourini, qui semble-t-il l'a utilisé, mais aujourd'hui il est introuvable. Et de cette première version, on a une partie seulement d'un manuscrit qui représente cette période primitive, et on a un autre manuscrit qui a été écrit au Caire, probablement par un disciple d'Ibn Khaldoun, parce qu'il contient pas mal de fautes, mais il a l'avantage de nous présenter cette version primitive de la Muqaddima. Cette version primitive, je l'ai moi-même éditée avec la Muqaddima, en donnant d'une part la version primitive qui était beaucoup plus courte que la version définitive, les deux versions définitives, moyenne et définitive. Et donc, il était important d'avoir cette première version. Comme ça, on peut savoir comment le texte a évolué. Et donc là, je l'ai publié dans le cadre d'une édition de Muqaddima en cinq volumes, 3 volumes pour la version définitive et la version moyenne, et 2 volumes pour la version primitive. Voilà, la deuxième série de manuscrits que nous avons, elle comporte 4 manuscrits, sans compter les copies, et elle représente donc la période où Ibn Khaldoun était encore en Égypte, où il a très largement augmenté, corrigé, apporté toutes sortes de nouvelles informations et parfois de remaniements du texte originel. Et c'est une version très importante, où l'ouvrage est pratiquement achevé, et nous avons 2 manuscrits qui sont très bons. Un manuscrit qui a été présenté, la copie qui a été présentée au sultan mamelouk d'Égypte, Az-Zahir Barkouk, et une autre copie qui a été présentée au sultan mérinide, Abdelaziz II. La troisième série, elle est composée également de 2 manuscrits. Le plus important est le manuscrit appelé Atif Afendi 1936, qui se trouve à Istanbul et qui date de l'année 804, c'est-à-dire à peine 4 ans avant la mort d'Ibn Khaldoun. Il a quelque chose de particulier, c'est qu'il porte une note de la main d'Ibn Khaldoun disant que ce manuscrit représente la meilleure copie de la Muqaddima et la plus complète. Et puis donc l'autre manuscrit qui a été présenté à la bibliothèque Qarawiyyine de Fès sous le règne de Abdelaziz II, elle était connue depuis longtemps. On a parlé des auteurs du 19e siècle, on en parlait, mais malheureusement aujourd'hui elle est introuvable, on ne sait pas où elle est passée. Donc ces 3 séries de manuscrits nous montrent donc qu'Ibn Khaldoun a continué à travailler sur le livre des exemples pendant toute sa vie, environ 26 à 30 ans, et il a apporté des corrections jusqu'à très tard, jusqu'à pratiquement la dernière année de sa vie. Et donc c'est pour ça que ces manuscrits sont importants, parce qu'ils nous montrent le processus au cours duquel le travail a été accompli. Ça, c'est vraiment très très important. Pour quelqu'un qui veut étudier de manière minutieuse le travail d'Ibn Khaldoun, ce genre d'édition est absolument capital. Donc à partir de ce manuscrit-là, il y a eu tout un ensemble d'éditions. Et la première édition scientifique, on peut dire qu'elle a été faite en France par un orientaliste français qui s'appelle Quatremer au milieu du 19e siècle. Et puis, un peu plus tard, nous avons une édition faite par Al-Hourini, à peu près, disons, quelques années plus tard. Et puis, enfin, nous avons, à partir de ces 2 premières éditions, qui étaient la première, celle de Quatremer, donc l'édition française publiée en France, était assez bonne, elle était bien faite, il y avait un ensemble de notes explicatives qui étaient assez intéressantes. La deuxième, c'est de Volini, était beaucoup moins bonne parce qu'elle donnait le texte brut et il y a plein d'erreurs, plein de fautes. Mais ce sont ces deux premières éditions qui ont servi par la suite à toutes les éditions ultérieures qui ont été faites. En particulier au Moyen-Orient, il y a eu peut-être 5 ou 6 éditions, parmi lesquelles 2 sont connues et assez répandues dans le monde arabe, et l'une de Abd al-Wahid Wafi et l'autre de Darir. Alors, ces éditions, en fait, ne sont pas très fiables. Pour quelqu'un qui veut faire un travail sérieux, elles ne sont pas suffisantes. Alors c'est pour ça, moi-même, j'ai été amené à faire une autre édition. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur Ibn Khaldoun, je me suis dit qu'il n'était pas possible de continuer à travailler sans avoir un texte suffisamment bon. Sinon, on peut entrer dans des considérations et dans des interprétations qui risquent d'être faussées à la base. Et donc, j'ai publié en 2005 une nouvelle édition critique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était basée sur l'ensemble du manuscrit connu et qui est dotée d'un vaste appareil critique. Bon, Chabouh, de l'autre côté, en Tunisie, a récemment publié une nouvelle édition de la Muqaddima. C'est bien qu'il y ait plusieurs éditions. Ça permet aux chercheurs de comparer, de voir éventuellement d'améliorer le texte si c'est possible. En tout cas, quand on fait une édition, on fait le maximum d'efforts pour avoir le texte le plus parfait, mais ce n'est jamais parfait. Hein. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des omissions, il y a toujours des choses qu'on n'a pas vues. Et donc, c'est important d'avoir plusieurs éditions. Alors maintenant, pour ce qui est des traductions. Alors, dans son ensemble, le livre des exemples n'a jamais été traduit. On en a, disons, la partie qui concerne la Muqaddima, la partie de, disons, qui est constituée par la Muqaddima a été traduite plusieurs fois. Et les autres parties n'ont pas été traduites dans leur intégralité. Parfois, on a retiré certains extraits qu'on a traduits spécialement, en particulier pour l'histoire de la Sicile ou l'histoire de l'Espagne, ou une partie de l'histoire des Mamelouks. Moi-même, j'ai fait des extraits assez larges dans un ouvrage que j'ai publié en 1998, qui s'appelle « Peuple et nation du monde », dans lequel j'ai donné des extraits assez larges de l'histoire, dans la partie historique du livre des exemples. Et par ailleurs, la partie qui concerne l'autobiographie a été éditée assez tardivement et on en a fait une traduction qui est paru en 1847 par une traduction française par l'orientaliste de Slane, le baron de Slane. Alors on sait que c'est le même qui a traduit une partie du livre des exemples relative à l'histoire du Maghreb en 1850. Il y a également un ensemble de traductions partielles, donc des extraits, en allemand, en italien, en espagnol et en russe. Mais comme je l'ai dit, c'est la Muqaddima qui a connu le plus grand nombre de traductions. Et la plus ancienne a été faite au milieu du XVIIIe siècle par un Turc, Pirizadeh, et l'orientaliste Joseph von Hammer, Bruckstall, qui a pris connaissance de cette traduction, qui, le premier, attira l'attention des orientalistes européens sur Ibn Khaldoun. Alors, au début du XIXe siècle, on a eu beaucoup d'extraits de la Muqaddima traduits en français et dans d'autres langues européennes. Et la première traduction complète du texte a été faite par de Slane en 1863. Au XXe siècle, on a eu une traduction en français également par Vincent Monteil, qui a été publiée sous l'égide de l'UNESCO. Et puis moi-même, j'ai fait une autre traduction parce que je n'étais pas du tout satisfait des traductions qui existaient. Et donc, j'ai fait une autre traduction en 2000 qui a paru chez Gallimard dans la collection de la Pléiade. Enfin, on peut signaler d'autres traductions dans d'autres langues, notamment l'hébreu, le hindi, le persan, le portugais, l'ourdou et le japonais. Alors, j'ai rencontré récemment le traducteur japonais de la Muqaddima. C'est un homme extrêmement sympathique. En fait, c'est un bonze zen, en fait. Il y a également des traductions qui ont été faites en chinois. Voilà donc pour la Muqaddima. On voit qu'elle a été traduite pratiquement dans les plus grandes langues mondiales. Et il faut comprendre que c'est ça ce qui nous montre justement la réception d'Ibn Khaldoun dans la culture universelle. Le fait qu'il y a toutes ces traductions et toutes ces éditions, ça veut dire que Ibn Khaldoun est vraiment reconnu comme un auteur d'une importance capitale. Bon, je vais parler assez rapidement des manuscrits et des éditions de l'autobiographie. Bon, comme vous savez, l'autobiographie en arabe s'appelle At-Sa'rif bi Ibn Khaldoun wa rihlatuhu gharban wa sharqan. Le texte a connu une importante évolution lui-même depuis la première rédaction en 783 jusqu'à l'ouvrage définitif qui fait partie et qui est comme Ibn Khaldoun a mis à la fin du livre des exemples. Et donc finalement cet ouvrage, cette autobiographie a accompagné la vie d'Ibn Khaldoun depuis l'année 783 jusqu'à sa mort. Alors on a de l'autobiographie trois versions qui effectivement, comme la Muqaddima, suivent trois périodes de rédaction. Donc on peut distinguer une version primitive qui correspond à la copie dédiée au souverain de Tunis vers l'année 1783, donc 1381, mais dont on n'a pas pu jusqu'ici retrouver l'original. Une version moyenne dont le prototype est l'exemplaire dédié à la bibliothèque du souverain Mamelouk Az-Zahir Barkouk, et une version tardive représentée par deux manuscrits originaux portant des corrections et des additions de la main de l'auteur. Jusqu'au début des années 50, l'autobiographie n'était connue que d'après la version moyenne à travers les deux seules éditions arabes alors disponibles, l'une à la fin de l'édition d'Iribar de Hurini et l'autre en marge de l'édition de la Muqaddima publié par Al-Matba'a Al-Khayriya au Caire en 1904. Alors, c'est seulement à travers l'édition du Ntawis Tanji, publiée au Caire en 1370, que nous avons une version complète basée sur l'ensemble des manuscrits connus et tenant compte des trois versions primitives, moyennes et tardives du texte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une première traduction de la version moyenne de l'autobiographie par Deslan à partir de 1844 dans plusieurs numéros du journal asiatique. Cette traduction ne comporte que le texte arabe donc de la version moyenne. Une traduction plus complète basée sur l'édition d'Ibn Tawhid Tanji a été publiée par moi-même en 1980 chez Sindbad, et cette même traduction figure aujourd'hui dans le tome 1 de Livre des Exemples que j'ai publié chez Gallimard dans la collection de la Pléiade. Venons-en maintenant à l'histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb, qui est donc en fait le noyau du Livre des Exemples, parce que Ibn Khaldoun au départ n'avait pas comme projet de faire une histoire universelle. Au départ, il avait comme projet simplement d'écrire une histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb. Mais petit à petit, quand il est allé au Caire et quand il a passé là-bas un certain nombre d'années, le projet s'est complètement élargi et il a alors parlé d'une histoire, en fait, une histoire mondiale, c'est-à-dire des pays connus à l'époque, sauf évidemment la Chine et l'Inde, sur lesquels il n'avait pas d'informations suffisamment précises. Donc nous avons de l'histoire des Arabes et des Berbères une vingtaine de manuscrits dispersés entre Istanbul, Tunis, Fès, Rabat, Madrid, Paris, Leyde. Leyde se trouve en Hollande. Les deux principaux manuscrits qui étaient copiés du vivant d'Ibn Khaldoun sont le Damad Ibrahim Pacha 967-868, qui font partie du manuscrit offert au sultan Az-Zahir Barkouk, et le manuscrit de la Karouine que j'ai évoqué tout à l'heure, et qui est malheureusement perdu, ou bien en tout cas jusqu'à aujourd'hui introuvable. C'est sur la base de ces deux manuscrits que nous pouvons aujourd'hui faire une édition critique de l'histoire des Arabes et des Berbères. Une édition basé sur un certain nombre de manuscrits qui se trouvent à Paris, à la Bibliothèque nationale de Paris, la Bibliothèque nationale française, une édition a été faite par De Slan et a été publiée à Alger en 1847, mais elle ne comporte pas d'appareil critique suffisamment étoffé. Cependant, elle dispose d'un index qui est d'une importance capitale et qui a longtemps aidé les chercheurs à travailler sur l'histoire des Berbères. Moi-même, donc, également, j'ai fait une édition critique qui n'est pas encore publiée, mais qui est sous presse et qui est basée sur ces deux manuscrits importants. En tout cas, qui est basée en particulier sur le manuscrit d'Ahmad Ibrahim et également sur... qui utilise l'édition de Slan. Alors, pour les traductions de l'histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb, il y a eu des extraits très tôt qui ont été publiés dans des langues européennes, notamment en français, anglais, italien, espagnol et allemand. Et la première traduction française de l'ensemble du texte a été faite, encore une fois, par De Slan, publiée à Paris en 1852. Et en fait, c'était une commande du ministre de la guerre de l'époque. Parce que l'histoire des Arabes et des Berbères était très utile aux Français pour leur administration de l'Algérie et de l'ensemble de l'Afrique du Nord, la Tunisie et le Maroc, qui venaient d'occuper. En tout cas, ils avaient occupé l'Algérie et puis ils avaient divisé sur l'ensemble du Maghreb. Voilà, donc moi-même, j'ai fait également une traduction de cette partie de l'histoire des Arabes et des Berbères du Maghreb qui constitue le deuxième volume du livre des exemples que j'ai publié en 2010 chez Gallimard dans la bibliothèque de la Pléiade. Voilà, donc on a fait le tour un peu de cet aspect un peu rébarbatif. Hein. Disons, ça ne donne pas des informations... disons, importante sur l'œuvre elle-même et sur la vie d'Ibn Khaldoun, mais je crois que c'était indispensable pour comprendre comment a évolué l'œuvre d'Ibn Khaldoun et surtout pour les chercheurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser comme traduction et comme manuscrit. Je vous remercie pour votre attention et j'espère à la prochaine fois pour vous parler cette fois-ci de manière beaucoup plus complète et précise du contenu de l'œuvre.